Chères auditrices et auditeurs des médias libres, un grand bonjour gorgé de soleil en ce début d'année, même s'il fait pas très beau dehors. Nous nous retrouvons pour une émission spéciale du Lot en Action, puisque nous nous sommes rendus en Ardèche pendant les fêtes de fin d'année. Et ben ouais, il y en a qui bossent. Pour rencontrer un personnage vraiment singulier, qui est Jean-Christophe Dumas, qui a publié sur Internet des plans pour réaliser soi-même un petit appareil qui permet de chauffer l'eau, et chose un peu étonnante, parce que jusqu'à là, chauffer l'eau, c'est pas très compliqué, mais qui produirait plus d'énergie qu'il en consomme. Alors là, j'en vois déjà certains qui se disent, mais comment c'est possible? Eh bien, là, on est sur le domaine de l'énergie libre, et ceux qui connaissent les travaux de Nikola Tesla seront pas totalement surpris. Alors, qui est ce Nikola Tesla? Ben, c'est l'un des plus grands scientifiques de la fin du 19e siècle et du début du 20e, qui a inventé tout un tas de choses, notamment les alternateurs, et qui ont permis à l'époque de vraiment créer les réseaux électriques, puisque on connaissait pas l'électricité alternative, et que on était sur des notions de courant continu, qu'on ne pouvait pas vraiment distribuer l'électricité entre les lieux de production et les lieux de consommation. Donc c'est un grand bonhomme qui a bossé avec Thomas Edison, qui a déposé plus de 300 brevets, qui est à l'origine de l'invention des radars, des sonars, etc. Et peu connu, hein, moins connu qu'Einstein, etc. Mais c'est un grand génie et notamment, il a laissé son nom à, enfin, la communauté scientifique a donné son nom à l'unité qui permet de mesurer l'induction électromagnétique. Alors, on voit qu'on est sur un sujet compliqué. Alors, petit détail pour ceux qui ne connaissent pas Nikola Tesla, qui souhaiteraient en savoir plus, vous pouvez aller, si vous avez accès à Internet, bien évidemment, vous tapez son nom, vous allez découvrir tout un tas de choses. Et puis sinon, si vous vous rendez sur le site du Lot en Action, je vous donne un petit point de repère. On a publié un dossier central sur ce grand bonhomme, Nikola Tesla, dans le numéro 50, qui était de mars 2012, qui est un accès libre et que vous pouvez retrouver donc sur le site du LEA. Alors, évidemment, quand on a entendu parler d'énergie libre, de polémique qui s'est développée autour de ce fameux Jean-Christophe Dumas, notamment sur Facebook, ben, on a voulu en savoir un petit peu plus, on a voulu le rencontrer. Puisque vous imaginez bien que ce type de publication ou de révélation, ça entraîne une foultitude de réactions. Alors ça va des soutiens inconditionnels, pas toujours réfléchis d'ailleurs, jusqu'aux attaques les plus folles, les plus pernicieuses. Ben forcément, on est sur le domaine de l'énergie et notre système économique est basé sur l'énergie. Enfin, en tout cas, ça en est une des bases. Et donc forcément, ça dérange. Alors, ce Jean-Christophe, ben, c'est pas un scientifique de l'establishment, il se présente lui-même d'ailleurs comme un bricoleur de garage, génial quand même le bricoleur au passage, mais en tout cas les expériences et les appareils qu'il a mis au point fonctionnent. Il y a eu tout un tas d'articles qui sont parus, notamment sur Rue 89, des interviews sur France 3. Et alors dans Rue 89, c'est intéressant parce que, y compris d'ailleurs les interviews sur France 3, tendent à démonter le bonhomme, ce Jean-Christophe Dumas, le présentant comme quelqu'un qui est complètement dingue, qui avance des choses qu'il n'est pas capable de trouver. Pourtant, il y a eu des études qui ont été faites, notamment sur un petit appareil qu'il met à disposition, qui s'appelle un résonateur, qui permet donc de chauffer l'eau. Et puis avec des choses quand même intéressantes qu'on a relevées, notamment dans l'article de Rue 89, puisque l'un des ingénieurs qui a travaillé à l'expertise dans le laboratoire de ce fameux résonateur déclare dans l'article « c'est vrai que les résultats étaient un peu étonnants, mais j'ai bien dit que ça n'avait rien de probant, ça méritait juste d'être creusé un peu plus sérieusement ». C'est intéressant quand même qu'un ingénieur, un scientifique, dise que ben voilà, c'est intéressant, qu'il y a des résultats qui sont étonnants et qui méritent d'être creusés. Alors nous ne sommes ni des scientifiques ni des ingénieurs, bien évidemment. Mais ce qu'on a voulu faire, c'est aller rencontrer le personnage Dans l'idée des journalistes citoyens, ben, nous sommes vos yeux et vos oreilles, et ben, se faire une opinion, voir ce que vous pouvez nous présenter déjà au niveau technique, ce Jean-Christophe, mais comment on ressentait la personne. Alors, du côté technique, on peut dire qu'on a été bluffé parce que on a vu effectivement un appareil qui fonctionne. Au-delà du fait de savoir si on est ou un peu plus qu'eux, hein, c'est-à-dire s'il produit plus d'énergie qu'il n'en consomme, ce qui n'est pas inintéressant, bien évidemment, mais c'est surtout que cet appareil produit de l'hydrogène. Et que, ben voilà, pour certains, si vous vous souvenez de vos cours de sciences nat à l'époque, pas mal de gamins disaient, quand on faisait l'expérience de l'électrolyse de l'eau, où il y avait d'un côté l'hydrogène et de l'autre côté l'oxygène, il y a des gamins qui disaient qui avaient cette tendance à dire, mais c'est génial, parce que si on produit de l'hydrogène, c'est de l'énergie gratuite perpétuelle. Et là, généralement, le prof disait, oui, mais c'est un peu plus compliqué que ça, parce qu'il faut plus d'énergie pour casser la molécule d'eau qu'on en récupère. Donc, le mouvement perpétuel, l'énergie gratuite n'existe pas. Ça, c'est ce précepte scientifique. Et là, on est sur cette possibilité de créer de l'hydrogène, donc de casser la molécule d'eau avec relativement peu d'énergie. Et alors, on est dans une société où on se pose la question sur la transition énergétique, hein, c'est un enjeu essentiel de nos sociétés, et on a un gros problème avec l'énergie électrique, c'est qu'on ne sait pas la stocker, et que cette idée de produire de l'hydrogène permet de stocker de l'énergie. Alors, en rencontrant Jean-Christophe, on a découvert un passionné, puis toute la polémique qu'il y avait autour de sa personne et du langage qu'il tient, des choses qu'il avance, ben, on a souhaité en savoir un petit peu plus. Et on n'a pas découvert quelqu'un qui serait un doudingue dont le moteur principal serait ou l'énergie principale en tout cas serait l'ego. On a vraiment rencontré quelqu'un qui pense qu'il a mis le doigt sur quelque chose qui est super intéressant, qui mérite d'être creusé. Et le fait qu'il l'ait mis en open source à disposition gratuite sur Internet et qui demande à ce qu'il y ait un maximum d'échanges qui soient faits, que les gens testent par eux-mêmes et que petit à petit on avance vers quelque chose, nous semble intéressant. Alors voilà, bah écoutez, on vous laisse écouter et juger par vous-même après cette rencontre avec Jean-Christophe. Jean-Christophe, bonjour, merci à toi de nous accueillir chez toi ici à Valls, dans le nord de l'Ardèche.
Mais je vous en prie.
Alors on est venu te rencontrer parce que on entend beaucoup parler de toi sur les réseaux, de cette expérience, on entend parler d'énergie libre, de résonateur, et puis on sait tout ce qu'il y a, tous les enjeux qu'il y a autour de l'énergie libre, donc c'est d'abord une rencontre humaine, et puis parler de tout ça, de ces espoirs, de ces enjeux de société. Alors comment est-ce que tu es venu à travailler sur l'énergie libre?
Oh là là, c'est une longue histoire, hein. Ben un jour... Je suis tombé, donc, comme beaucoup de personnes, sur Internet, sur des articles sur le sujet, notamment un article sur Tesla. Et j'ai commencé à m'intéresser au personnage, donc le fameux Nikola Tesla. Et puis, comme j'étais pas maladroit en électronique et en électricité, bah, j'ai reproduit, déjà pour commencer au départ, quelques plans qui traînaient sur Internet. Je me suis rendu compte qu'il y avait des choses qui marchaient. Et donc, j'ai décidé de creuser. Donc, il y a une dizaine d'années, j'ai quitté un grand groupe, donc j'avais du temps et des moyens. Et j'ai décidé de me lancer dans l'énergie libre, donc, et de mettre mes compétences au service de ça. Voilà.
D'accord. Et alors, quand tu dis j'ai essayé quelques expériences, lesquelles?
Alors, notamment la fameuse antenne Tesla, donc télétransmission d'énergie sans fil avec les deux ballons en aluminium. Bon, alors c'est sûr, ça marche pas super super, mais ça marche. Hein, on arrive à avoir de petits résultats avec ça. Donc, j'avais creusé déjà en un premier temps celui-là. Après, j'ai fait un Tesla Coil, donc entreprise qui m'a pris quand même 6 mois. C'est un éclateur, donc un éclateur qui diffuse des belles étincelles dans l'air. Hein. Il y en a qui font leur fonds de commerce avec ça en ce moment. Pourquoi pas?
Et alors, on s'est baladé, tu nous as fait visiter ta maison, donc il y a plein d'inventions partout en bas avec des moteurs qui fonctionnent à l'électromagnétisme. Enfin, on voit que ça bouillonne.
Oui, ben il y a plein de systèmes dans l'énergie libre qui méritent de l'attention et du travail. Donc, moi, mon principe, c'est de ne pas juger quelque chose avant de l'avoir testé moi-même. Ce que j'invite certains de mes détracteurs à faire au passage. Et quand on a envie de juger quelque chose, il faut le faire soi-même et se faire sa propre opinion. Donc, c'est ce que je me suis efforcé de faire avec ces moteurs. Donc, j'ai testé au départ des moteurs Minato, Bedini, tu as pu en voir, hein. Et puis, j'ai fait les miens. Donc, j'ai fait un petit peu la synthèse de ce qu'ils avaient fait. Et puis, j'ai repris certains principes. Et puis, celui que tu as vu dans la cave, donc celui qui est rebouclé, c'est. Est issu de cette recherche-là.
Et alors précisons, donc un moteur qui démarre avec une batterie qui est quasiment à plein
Oui.
et qui accélère, qui finit par tourner à une vitesse dingue et qui recharge la batterie.
Oui, c'est ça. C'est ça. Bah, déjà, c'est un travail sur les forces contre-motrices. Parce que quand on lance un moteur générateur et qu'on tire du courant dessus, on va obtenir une force contre-motrice en retour qui va ralentir le montage. Donc déjà, bah, il y a des techniques, il y a des stratégies avec des diodes de Schottky, on peut déplacer les forces contre-motrices, les diminuer. Il y a des montages de circuits Bédini qui permettent de les supprimer à 80%. Bon, bah, j'ai repris ces petites choses-là à droite et à gauche, et puis j'ai fait ça à ma sauce. Voilà, en toute humilité et sans chercher à changer le monde, juste parce que ça me passionnait.
Et alors, on va venir à s'arrêter peut-être un petit peu sur cette histoire de résonateur là qui défraye un peu la chronique en ce moment. Tu peux rappeler peut-être la page internet et le site pour les gens qui ne connaissent pas?
Oh bah, la page Facebook, c'est Effet Dumas. Donc, tu tapes Effet Dumas dans Facebook, tu vas voir tout ce qui va te sortir. Jusqu'à Effet Dumas, ça se fume. Normal, on est en Ardèche.
Et alors, donc, est-ce que tu peux expliquer aux auditeurs qui ne connaissent pas quel est le principe de ce résonateur?
Oui. Alors, bah, c'est un petit appareil en fait qu'on immerge complètement dans l'eau et qui va la faire bouillir très très vite. Et qui va provoquer même une vaporisation quasi instantanée de l'eau. Donc tu prends de l'eau froide hein, à 5-6 degrés, tu trempes le résonateur dedans, puis elle part en vapeur. Voilà. Sauf que le procédé en lui-même ne chauffe pas. Ça ne chauffe pas. Donc c'est un système qui déclenche des harmoniques. Certaines de ces harmoniques donc, provoquent un effet physique qu'on appelle la sonofusion. Que j'invite tout le monde à vérifier sur Internet. Donc la sonofusion, bah, ils se sont rendus compte qu'en envoyant des ultrasons dans l'eau au-dessus de 20 000 Hz, ils obtenaient des bulles à très haute température. Et bien là, c'est à peu près le même procédé, sauf que c'est dans un petit appareil compact et qu'on peut fabriquer pour moins de 30 euros.
Et donc avec un rendement supérieur à 1.
Alors voilà, bah la polémique sur Internet, elle vient de là. On a osé toucher à la loi de la conservation de l'énergie. Donc on a osé dire qu'on passait les 1. Donc ça a déclenché les foudres du système. Ce qui nous amuse d'ailleurs au demeurant. Hein, parce que, je veux dire, nous, on ne cherche pas à faire un concours. On cherche simplement à attirer l'attention du grand public sur le fait qu'il existe des systèmes qui pourraient être des solutions énergétiques. Qui pourraient. Et on a envie d'attirer l'attention puisqu'ils claquent 4 milliards ou 5 milliards dans ITER et qu'ils vont abandonner tous les chantiers parce que de toute façon ils ne savent pas le faire marcher. On pourrait même creuser le sujet d'ITER qui est passionnant parce qu'à l'intérieur ils vont avoir des disruptions, donc des vents. Ils vont recréer le soleil, mais ils vont recréer le soleil avec des vents solaires, donc avec des éruptions solaires. Donc c'est Charles de Gaulle lancé à 150 km/h sur les murs, une disruption. Donc ils ont fait des murs de 1 mètre, c'est bien, mais ça ne marche pas. Donc moi, ce que j'ai envie de dire aujourd'hui, c'est que l'énergie libre, bah, c'est des petits systèmes qui sont pas chers. Il y en a certains qui sont très ingénieux, qui mériteraient que les majors compagnies de l'énergie se penchent dessus, si elles ne l'ont déjà fait, et puis qui donnent ça au grand public, parce que maintenant, il est temps.
Bon, alors là, c'est ce que tu as fait, puisque tu as
Oui.
décidé de, en tout cas, le fruit de tes travaux, là, de les mettre à disposition du plus
Oui.
grand nombre sur Internet et gratuitement.
Oui. Oui, ça a été vraiment spontané, ça s'est fait comme ça. Au départ, on devait être 30 dans une salle de cinéma, et puis ça a donné lieu à ce que vous pouvez constater maintenant.
Et alors, chose que je trouve intéressante quand même sur ce résonateur, en discutant un petit peu avec toi, en voyant les démonstrations, c'est que au-delà du rendement, on casse la molécule d'eau et donc on
Oui.
produit de l'hydrogène.
Oui.
Et que la question qui vient immédiatement, c'est de se dire, mais puisqu'on est au-dessus de 1, ben on peut utiliser cet hydrogène pour travailler différemment. Donc soit pour alimenter une maison en électricité, en chauffage, mais même aller bien au-delà, puisqu'on produit de l'énergie souvent électrique, on ne sait pas la stocker. Que ça pourrait peut-être être une solution sur les transports, par exemple.
Alors, l'intérêt de l'hydrogène, justement, comme tu viens de le relever avec pertinence, c'est qu'on peut la stocker. Donc l'hydrogène, pour moi, c'est une forme d'énergie qui est stockable. La difficulté aujourd'hui de l'humanité, c'est de stocker de l'énergie. On va avoir des panneaux solaires qui vont travailler en plein été à plein régime, mais en plein été à plein régime, tout le monde est sur la plage et on s'en fout un peu. On va avoir des éoliennes qui vont tourner à 4 heures du matin, mais à 4 heures du matin, c'est pas là où on consomme le plus d'énergie. Donc on a souvent la plus forte production énergétique au moment où on a le moins besoin. Si on pouvait, au travers de l'hydrogène, et là je dis quel que soit le rendement de l'appareil en hydrogène, ce qui est intéressant aussi, c'est que ce système-là, il n'est pas cher à fabriquer. Donc même s'il avait un rendement d'hydrogène, je vais dire une bêtise, de 70%, mais par rapport au coût de fabrication de l'appareil, par rapport au risque d'utilisation, par rapport à tous les inconvénients des électrolyses aujourd'hui, je dis qu'il est très compétitif pour réaliser au pied des éoliennes ou des panneaux solaires des zones tampons de stockage d'hydrogène qu'on pourrait réutiliser par la suite en fonction des besoins de la population. Voilà, ça fait partie des applications qu'on défend.
Et alors, quand on discutait, on voyait tes yeux qui brillaient hein, quand on parlait de production d'hydrogène presque domestique, individuelle. Qu'est-ce qui manque pour arriver à ça aujourd'hui dans l'état de tes recherches
Si tu veux, moi j'en suis au début de l'aviation. Donc, au début de l'aviation, tu avais les premiers qui se jetaient du haut de la tour Eiffel avec des ailes. C'est un peu mon cas. Et ça faisait marrer tout le monde. Mais bon, en attendant, aujourd'hui, on a des jets. Donc, moi, si tu veux, ma démarche a été d'attirer l'attention sur un procédé que j'ai estimé être intéressant. Maintenant, c'est aussi aux décideurs d'embrayer là-dedans. On a un procédé qui n'est pas cher, qu'on peut fabriquer pour presque rien, qui a quand même un rendement extrêmement intéressant. Je ne vais pas me relancer encore dans les trucs sur Uniter, parce que sinon, je vais me reprendre une deuxième volée de bois vert sur Internet. Mais partons du principe que le ratio entre le prix de l'appareil, son rendement, ses risques d'utilisation, sa maniabilité, parce que c'est vraiment, on peut le faire à toutes les tailles, on peut l'enquiller partout, dans n'importe quel bac, alambic. Ça ouvre des perspectives en termes de dessalage d'eau de mer, donc de l'eau douce pour ceux qui n'en ont pas. Ça ouvre des perspectives, et crois-moi, j'ai comparé avec l'osmose inverse, on est vachement plus intéressant que l'osmose inverse d'au moins 20%, parce qu'on n'a pas besoin de traitement chimique. Une fois que c'est passé par la vapeur, tu n'as plus de bactéries. Hein. Tu as l'exploitation en chauffage qui peut être extrêmement intéressante aussi. Tu as l'exploitation en hydrogène. Donc autant te dire qu'il y a autant d'applications que de gens qui font bouillir de l'eau ou qui font de l'électrolyse.
Et alors, ça fait plusieurs fois que tu évoques quand même le fait de déranger, d'avoir des attaques sur Internet. On est sur des enjeux essentiels puisque nos sociétés, nos systèmes économiques sont basés sur l'énergie. Est-ce que tu as subi des pressions?
Oh bah oui. Oh là là. Excuse-moi. Oui, bah oui, de toute nature. On a attaqué mon film, on a attaqué la boîte de prod de mon film. Ils ont été menacés. On m'a menacé de me péter mes conférences. Au demeurant, c'est resté lettre morte. Hein. C'est plus de l'intention de trolling Internet que du grand groupe malveillant derrière. Le grand groupe malveillant aujourd'hui, s'il existe, il est très discret et puis il ne nous empêche pas d'avancer.
Et alors, en restant positif, parce que on parlait de malveillance, mais on peut parler aussi de bienveillance, et il y a forcément des gens aujourd'hui, y compris qui ont des moyens,
Oui.
Qui se posent la question, qui comprennent bien qu'on arrive au bout du bout, on va dans le mur et qu'il y a des solutions à inventer aujourd'hui. Est-ce que tu as eu des contacts avec des industriels, avec, je sais pas, des fonds financiers, de gens qui se disent, bah tiens, là, il y a vraiment quelque chose à faire?
Alors les financiers, même pas trop, je ne sais pas pourquoi. Mais par contre, les industriels, oui. Et notamment les petits industriels. J'ai eu beaucoup de contacts avec de petits industriels. Il y a des contacts qui sont en cours. Il y a aussi des moyens industriels qui ont une envergure plus nationale. Je ne donnerai pas de nom parce que c'est des gens qui souhaitent la discrétion. Vu comme je suis embêté, moi, ils n'ont pas envie d'être embêtés, eux, au même niveau. Puis ils défendent aussi des images commerciales. Mais par contre, oui, il y a une dizaine de contacts en cours et des contacts très sérieux de gens qui ont envie d'avancer dans cette direction.
Oui, parce que somme toute, on discutait tout à l'heure de budget pour des recherches d'une telle ampleur. Au final, on parle de budgets qui sont assez accessibles.
Ben, tout dépend du résultat qu'on veut obtenir et dans quelle direction on veut chercher. Si on veut chercher la centrale du futur, effectivement, il y a un budget qui est substantiel. Hein. C'est pas, ça ne va pas non plus être gratuit. Mais comparé à ce qu'ils ont mis dans ITER, ça va être le dixième. Ou le centième même. Il n'y a pas de matériaux fissiles à manipuler. Il n'y a pas de risque pour les populations. Il n'y a pas besoin de construire des bunkers centrales à l'épreuve des chutes d'avions. On n'a pas besoin de ça. On a besoin de petites centrales qui puissent stocker de l'hydrogène de manière sécurisée. Voire même des centrales individuelles à l'image de l'ICAT du professeur Rossi. Donc, qui lui aussi a eu les mêmes déboires. Enfin, disons que j'ai eu les mêmes déboires que lui, parce qu'il a commencé avant.
Bon, en tout cas, on peut d'ores et déjà dire que, en ce qui concerne le réseau d'ATER, les plans sont sur Internet et encourages vraiment tous les gens que ça intéresse à regarder de près et à en fabriquer. Hein.
Ah bah bien sûr.
Vous organisez des stages même ici de...
On appelle ça des ateliers. Hein. C'est un espèce de rituel de mecs qui se réunissent le samedi après-midi pour bricoler en tout bien, tout honneur, devant une bonne bouteille. Des fois, il y a des ambiances terribles et puis tout le monde repart avec son appareil s'il veut ou pas. C'est gratuit de toute façon. Donc, si tu achètes quelque chose, tu achètes le kit de montage. Hein, et tu as 1 € de frais d'adhésion à la sauce, ce qu'on ne peut pas considérer comme étant un business.
Ouais, c'est une bonne réponse à certaines critiques. Et alors, il y a une association qui a été montée ?
Oui. Alors, l'association, c'est le collectif pour une alternative énergétique, hein, sous la présidence de Pierre-Antoine Courrouble, donc, qui regroupe des gens comme Florian, Bruno Sergent, Caro. Bon, il y a toute une équipe derrière. On est complètement débordé. C'est-à-dire qu'on ne peut pas répondre à tout le monde. On nous écrit, on peut répondre à 1 personne sur 5 en ce moment, vu notre organisation. Donc s'il y a des bénévoles d'ailleurs au passage.
Et alors j'imagine que les contacts doivent être nombreux parce qu'il y a quand même pas mal de gens qui bossent sur des sujets connexes ou sur l'énergie libre. Donc tu as dû nouer une foule de contacts.
Ah oui, oui, oui. Mais le problème d'avoir une foule de contacts, c'est qu'au bout d'un moment, on ne sait plus comment optimiser au mieux son temps. C'est-à-dire qu'on ne sait plus si avec tel contact, on va passer 2 jours pour rien ou si avec l'autre, on va passer 1 heure pour un truc génial. Tu vois, vient la question de gestion du temps parce que là, on n'y arrive plus. On n'arrive plus, on est sursaturé à tous les niveaux, mail, téléphone.
Et alors, besoin d'investissement, de moyens humains, que les gens vous rejoignent ?
Surtout de moyens humains, de bonne volonté. De l'argent, on n'en demande pas. On ne demande pas de dons. On en fait ceux qui veulent en faire en font, mais on ne demande rien. On reste dans notre éthique acommerciale, apolitique. Et on ne cherche absolument pas à faire de prosélytisme ni à recruter qui que ce soit. Si on a envie de nous aider, on vient nous aider et ça sera avec plaisir. Et ça, c'est une ambiance très bonne enfant.
Super, bah merci Jean-Christophe en tout cas de ton accueil. Et bah on va suivre et on donnera régulièrement des nouvelles. Et puis n'hésitez pas à nous tenir informés.
Avec grand plaisir, merci à toi d'être venu.
Merci. Cette rencontre et ces échanges avec Christophe ont été vraiment intéressants. Et si nous ne sommes pas en mesure de vous dire aujourd'hui « Oui, ce gars est génial, il a mis le doigt sur un truc absolument incroyable qui va nous permettre de sortir du pétrole, de préfigurer de la société de l'après-pétrole », en tout cas, on peut vous dire que c'est un gars qui nous semble vraiment sincère, dans une démarche vraiment citoyenne. Le fait qu'ils mettent tous ces travaux en open source demande de la contradiction et demande à ce qu'il y ait un travail collectif qui soit fait et qu'on avance. ben, mérite probablement notre intérêt, le fait de suivre tout ça de très près. On en reparlera, je pense, très prochainement dans le journal de février, je pense, l'édition de février du Lot en Action, avec les éléments supplémentaires pour suivre cette aventure. Alors, cette rencontre avec Jean-Christophe n'a été possible que par l'intervention de Florian, un jeune militant de 26 ans d'origine vendéenne, qui réside aujourd'hui en Ardèche et qui fait partie de l'association de soutien à Jean-Christophe Dumas, mais également qui est le cofondateur d'une belle aventure, qui est une association qui s'appelle Changement de Cap, qui a vu le jour donc il y a un petit peu plus d'un an, dans le sud de l'Ardèche, au Vence, donc qui est la terre de Pierre Rabhi, juste à côté de Terre et Humanisme. Belle aventure, beau projet, l'ouverture d'une recyclerie, donc qui récupère les déchets à droite, à gauche, les valorise, les vend auprès du public, à prix libre pour beaucoup, et qui a permis d'ores et déjà, après un an d'existence, de créer 7 emplois, et dont les perspectives vont bien au-delà d'une déchetterie, puisqu'aujourd'hui, ce sont des stages de formation qui sont mis en place, avec des projets de lieux de vie, avec tout un tas de choses qu'on aime, le prix libre, bien sûr, mais la collégialité, l'horizontalité dans les décisions, en tout cas une aventure où l'être humain est au centre. Alors, nous avons rencontré 4 de ces aventuriers, et c'était aussi l'idée de rentabiliser un peu, entre guillemets, ce déplacement en Ardèche, terre des alternatives, de rencontrer différents réseaux. Il en est né plein de choses, notamment l'envie partagée de renforcer la communication entre tous ces réseaux alternatifs, de rendre les choses un petit peu plus visibles, ce que vos médias libres s'attachent à faire. Et je pense qu'il y a plein de corrélations qui seront intéressantes. On donne la parole au fondateur de Changement de Cap.
Du Cap Vert,
toujours en Ardèche, dans une équipe, dans une ambiance super sympa, avec toute l'équipe, en tout cas une grosse partie de l'équipe de Changement de Cap. Alors, changement de cap, parce qu'il y a 4-5 personnes autour de nous. Alors, changement de cap préfigure carrément d'une nouvelle société, autant au niveau des rapports sociaux qu'économiques. Est-ce que quelqu'un qui s'y colle là pour nous expliquer la rencontre peut-être déjà des cofondateurs, comment ça s'est passé allez, Sophie.
C'est dans ton terrain.
Ah, c'est mon terrain.
Ça, alors, la rencontre, oui, ça s'est passé à Emmaüs l'Escarpot, là, il y a un an et quelques maintenant, vu que c'était pendant le festival en fin juillet. Du coup, on s'est rencontrés, moi, Sylvain et Sophie, autour d'une table. Et ça s'est fait vraiment tout seul. On s'est bien trouvé, on va dire. On avait les mêmes envies sur nos engagements, l'envie de créer, de rajouter une petite goutte à ce changement. Et voilà, après, ils étaient en Ardèche et du coup, je les ai rejoints au début sur une petite terre avec trois toiles de tente. Et voilà, le projet, après, on l'a mis en place très vite.
Et toi, Florian, tu es un enfant d'Emmaüs, on peut dire.
Ouais, ça me colle à la peau, ça. et c'est marrant, je suis content de le dire maintenant. Ouais. Alors, Emmaüs, avant, on le regardait un peu de travers, les enfants d'Emmaüs, mais c'est les poubelles, ça. Non, mais oui, ouais. J'ai ma mère qui a beaucoup œuvré là-dedans, enfin, c'est cette famille. Du coup, je m'y suis retrouvé à mes 20 ans, à moi aussi foncer là-bas parce que ça me parlait beaucoup. Ouais.
Et alors, Sophie, qu'est-ce qui a fait que ce projet a pris corps quand vous êtes rencontrée à Pau?
Ce qui a fait corps, c'était qu'on était d'accord sur les constats et que, comme tu disais, il était temps de passer à l'action parce qu'il était temps de construire, en tout cas, un nouveau modèle, et un nouveau modèle d'abord pour nous, pour comment on veut vivre et qu'est-ce qu'on veut faire de notre petite journée, de notre quotidien. Et on a collé sur l'esprit général parce qu'on avait les mêmes objectifs. Et donc, en un an, ça a vite pris. Il y a eu le récup vente qui s'est créé. On a changé d'endroit. On a pris un plus grand espace. Et puis, il y a de plus en plus de gens. Il y a de plus en plus d'énergie. et on avance sereinement sur le projet de la ferme en polyculture, voilà.
Bon, Sylvain, tu nous expliques un peu ce que tout le champ d'action de aujourd'hui du projet.
Tout le champ d'action.
Ouais.
C'est large. En tout cas, ce qu'il faut comprendre là-dedans, c'est que nous, on essaye. Voilà. On n'a pas la prétention d'avoir une solution, mais en tout cas, voilà, on a décidé de passer le cap.
Mais c'est un sacré changement le cap, sans mauvais jeu de mots, parce que aujourd'hui, enfin après, à tout juste un peu plus d'un an d'activité, on est déjà à 6 ou 7 salariés, non ?
Oui, il y en a à 17h, à 24h, on a beaucoup de bénévoles aussi. Ce projet est viable parce qu'il y a des bénévoles aussi, des gens qui croient au projet. Et ça, c'est important.
Et alors, explique aux auditeurs, parce que là, on est dans le Lot, hein, Lot, Toulouse, partout, là, donc l'Ardèche, bon, on imagine, on voit où c'est, mais concrètement, le projet, vous avez débuté par quoi, et aujourd'hui, qu'est-ce que vous proposez ?
On a débuté avec rien, donc comme quoi c'est possible, et du coup, on a commencé avec rien, mais avec une grosse énergie humaine, surtout. Quand je dis rien, c'est bien sûr d'un point de vue matériel et financier. Mais en tout cas avec des convictions très très fortes avec Flo et Sophie et puis tous les gens qui nous ont rejoints derrière aussi avec la même dynamique d'aller de l'avant, d'essayer de trouver de nouvelles alternatives à un modèle de société qui ne nous convient pas à nous en tout cas et où on voit du mal-être, où on voit une grosse exclusion en fait et voilà, tout basé sur des malentendus, sur une économie. Donc voilà, il n'y a pas de théorie du complot, hein, parce que le complot en fait c'est quand on fait par derrière. Là, je crois que tout le monde peut le voir. Donc tout le monde a le choix de pouvoir choisir autre chose. Voilà, l'idée c'est de se réunir, de chercher de nouvelles alternatives. Et donc, nous, avec Emmaüs Lescarpo aussi, on avait vu qu'avec la force du déchet, ben ça, on pouvait créer une économie indépendante qui nous permettrait d'investir justement au profit de l'humain et en respect de la nature. Donc, voilà.
Et alors, comment vous avez commencé ? Parce que aller chercher des choses à recycler ou des déchets, comment vous avez fait ? Vous avez lancé des appels radio ? Vous avez tourné dans les réseaux ? Comment vous avez fait ?
Ouais, vive les radios locales, vive les journaux alternatifs, vive le bouche à oreille aussi. Parce qu'il y a une grosse, grosse solidarité. Moi qui fais de la com depuis un moment, on peut monter des sites, etc., des beaux flyers, tout ça. En fait, c'est le bouche à oreille et c'est surtout ce qu'on incarne derrière, en fait. Hein. C'est ça qui est important. Je crois qu'en en fait, il n'y avait vraiment pas eu de magie. C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est une histoire de conviction. En fait, ça a parlé à beaucoup de gens, ce qu'on cherchait. En fait, voilà, ces solutions qu'on cherchait. Donc, à notre échelle, on déplace des petites pierres qui vont faire que ben, voilà, ça donne envie à d'autres. Parce que le but, c'est ça. Ce n'est pas nous d'être une grosse association alternative, etc. Le but, c'est d'essayer. Nous, on va sur des terrains un peu inconnus pour essayer d'ouvrir des portes et montrer que c'est possible de le faire. Donc ça, c'est sur un point de vue un peu poétique et philosophique. Après, concrètement, sur le terrain, voilà, oui, on a fait des flyers. Et de bouche à oreille, les gens ont eu besoin de se débarrasser des encombrants et puis de donner aussi des fois parce qu'il y avait de l'inutile en fait chez les gens. Donc nous, tout ça, on l'a valorisé, on l'a revendu et ce qui a permis de créer des salariés pour structurer cette activité, en tout cas cette dynamique. Donc pour nous, la recyclerie, c'est un outil en fait. Voilà, si demain on n'existait plus au niveau de la recyclerie, ça voudrait dire que le monde va mieux et que la surconsommation est abolie. Bon, pour l'instant, on n'y en est pas. Et c'est pour ça que la deuxième étape de notre projet, qui est vachement pertinente, c'est la polyculture avec le lieu d'accueil pour des gens qui sont aussi en souffrance ou des gens qui cherchent autre chose, des gens qui sont de passage, qui ont besoin d'apprendre justement tout cet échange de savoir qui peut être transmis en fait sur des lieux alternatifs est super important, quoi. Et le message final qui est c'est possible de faire différemment en respectant la nature et les humains. Voilà. C'est une utopie peut-être aujourd'hui, parce que dans ce schéma de pensée et ce carcan quelque part économique dans lequel on s'est planté, nous les humains, quoi, hein, y a pas de, je ne crois pas qu'il y ait de grande conspiration là-dedans. Il faut essayer de faire différemment, en tout cas de montrer que c'est possible. Même eux, j'en suis sûr qu'ils attendent, beaucoup de gens attendent. On côtoie des élus, on côtoie beaucoup de citoyens, on côtoie des grosses entreprises des fois, et on voit bien, ou des gens qui y travaillent plutôt, et on voit bien que tout le monde cherche quand même à faire différemment, parce qu'on voit l'impact et surtout les retours néfastes, en tout cas, qu'engendre ce modèle de société.
Une autre question, je ne sais pas qui va s'y coller, mais j'ai trouvé sympa en me rendant sur les lieux, c'est la notion du prix libre en voyant le... Ah bah c'est Florian, allez.
C'est mes bonnes idées, ça. Ouais, non, le prix libre, pour nous, c'était important que ça soit ouvert à tous, en fait. Que, bon, on gagne pas tous la même somme par mois. Et il y a des gens qui ont des besoins et puis ils peuvent pas se les acquérir. Du coup, on avait essayé l'année dernière sur les marchés locaux, du coup, de Joyeuse, de lancer le prix libre. Et ça marchait pas mal. On avait fait ça dans la boutique aussi. On avait fait une petite pièce à prix libre et ça... Ça résonne chez les gens, enfin, ça les remet en question, ça les choque, ça bouge, de donner la possibilité de fixer ton prix par rapport à ce que tu en penses. Enfin, donc pour moi, c'est super intéressant. Et du coup, on a recommencé, là, il y a une semaine, sur le lieu de Rosière, de faire une tente entière à prix libre. Et voilà. Et les gens jouent bien le jeu, donc c'est super, c'est important.
Et alors là, j'ai envie de donner la parole à Caro, parce qu'on l'a pas encore entendu, et notamment sur la notion de la collégiale, de la façon dont vous fonctionnez tous ensemble. Et parce que Caro a rejoint le projet un petit peu après la création. Et est-ce que tu peux nous en parler, la façon dont ça fonctionne et dont toi tu le ressens?
Je ne sais pas réellement comment l'expliquer. Moi, je le ressens du côté humain. Je suis arrivée là par le destin, par la force des choses. Je changeais de cap à ce moment-là. Je suis tombée sur changement de cap. Alors, comment ça se passe? C'est la dynamique de chacun qui crée en fait le fonctionnement. C'est-à-dire, c'est les esprits libres qui fonctionnent avec leur créativité, leur dynamique et leur conviction, voilà, de construire autre chose. Donc, il y a ce côté de construire autre chose, mais de vivre aussi autre chose. C'est-à-dire, comme tu as dû le voir sur le site, il y a quelque chose qui se passe pas forcément dans une entreprise où les gens sont payés, bien payés. Tu travailles plus, tu gagnes plus. Là, ça n'a rien à voir, c'est vraiment un échange. En donnant, en fait, les gens, en donnant d'eux-mêmes, dans leur dynamique, dans leur conviction, ils reçoivent. Moi, en fait, c'est ce que je ressens. En donnant, là, dans cet assaut, pour les autres, je reçois aussi, moi, un côté humain. Donc après, comment ça fonctionne tout seul, en fait. Tout se passe tout seul. Il n'y a pas réellement de méthode, où, c'est vraiment le côté humain, le côté dynamique. Voilà, après... Après, tu l'as vu, il faut venir voir, en fait. Je pense qu'il faut venir faire un tour à changement de cap pour voir ce qui s'y passe et ce qui se dégage et comment ça fonctionne, quoi.
Et alors, ce côté humain et social est fort parce que, en discutant un petit peu avec vous, bon, je vous découvre, hein, mais je me suis aperçu que vous avez accueilli des gens qui sont dans des situations, pour certains, difficiles, et que certains d'entre vous se sont effacés en se disant moi j'ai la possibilité d'avoir deux, trois bouts de chandelle, et qu'il y a priorité aux gens qui sont vraiment dans la galère. Enfin, je sais pas, Florian, tu veux peut-être dire un mot là-dessus?
Déjà, bien sûr, il y a des gens qui sont arrivés qui étaient en galère, et du coup, ça, je trouve ça super fort, c'est que on a eu l'envie de les aider. Du coup, c'est sûr que celui-ci qui pouvait donner un peu plus ou qui touchait un peu plus, qui partageait ou qui laissait la place. Et ça, on l'a encore laissé, même essayer de tourner dans les salaires, pourquoi pas, parce qu'il y a un gars qui arrive et que toi, t'es bien, vas-y, aide celui-ci qui est en galère. Et on l'a fait déjà deux, trois fois. Et c'est important. C'était l'état d'esprit d'Emmaüs à la base. Et on essaye de l'appliquer à notre façon, en tout cas. On essaye de se démerder entre nous. On l'a fait dès le début entre nous trois, parce qu'on était tous les trois. Voilà, niveau financier, il n'y avait rien, quoi. Donc, on s'est démerdé. Et puis, s'il y en a un qui a plus, on partage, quoi. En fait, comme ça devrait se passer normalement, partout.
Et alors, les liens avec Emmaüs, l'escarpeau, parce que comment ça se passe? Je crois qu'il y a des gens d'Emmaüs qui sont venus ici vous soutenir.
Ouais, c'est vrai. On a créé une belle passerelle entre Rosière, du coup, et l'escarpeau. Parce que là-bas, ça nous parle. Alors, tout n'est pas parfait là-bas non plus, mais moi, je trouve qu'ils ont en tout cas le mérite d'essayer à une plus grosse échelle d'ailleurs, parce qu'ils sont 120 compagnons quand même d'Emmaüs là-bas. Et surtout, ils font beaucoup d'événements aussi, ils font beaucoup de choses en fait, en tout cas pour les autres. Moi, je trouve vraiment ça nous a parlé. Donc maintenant, on fait venir des compagnons qui viennent nous donner des coups de main. On a eu un des responsables avec une responsable communication qui sont venus nous voir pour les un an de changement de cap et parler au micro sur scène devant tout le monde. Donc ça renforce aussi le message. C'est important, on n'est pas seul à rêver dans notre coin, on est plein à penser la même chose. Et voilà, il y a des structures, en tout cas, qui ont fait le pas et qui incarnent ça. Et ça donne, comme je disais tout à l'heure, envie aux autres. Et ça, c'est super important, ouais, de les mettre en lumière, ces projets, aujourd'hui. Donc, grâce aux radios alternatives, grâce à beaucoup de choses qui se passent, ben, de plus en plus, on voit éclore des projets comme ça. Et Emmaüs, l'escarpot en est un pour moi, en tout cas, qui fait partie de notre recette. Hein. Bien sûr, on n'a pas tout copié-collé. Il y a des choses qui nous ont moins parlé, des choses qui nous ont plus parlé, comme à Terre Humanisme aussi, ou chez les Apatistes, ou dans les ZAD, ou Longomaï, etc. Voilà, plein de projets, en fait, qui existent en France. Et ben, nous, on a pris un peu de tout et on a fait une recette familiale, comme dirait Sophie. J'ai piqué le copyright à Sophie, j'avoue tout, mais c'est un copyleft parce que Sophie, je sais qu'elle aime pas trop les droits de propriété, donc je me suis permis, Sophie.
Mais là aussi, moi je pense que rien que par rapport à Emmaüs, là aussi encore on casse un schéma et on fait autre chose, c'est-à-dire il n'y a pas de rivalité avec ces sortes de communautés qui sont construites. C'est vraiment, là aussi on montre autre chose, comme on pourrait comparer ça au monde actuel, les sociétés, de toutes ces choses-là, toutes ces institutions. Là, non, il y a une fraternité encore, comme nous, on a au sein de Changement de Cap, comme eux, ils ont chez Emmaüs ou chez Terre et Humanisme. Ben là, voilà, entre nous, on fait des interliens, quoi. On montre encore une fois qu'on est vraiment ouvert, qu'on échange, qu'on partage, comme il y a dit Sylvain. Voilà, eux, ça leur parle, nous, un peu moins, mais on fait un mélange. Et je pense que peut-être un jour, des gens comme Emmaüs vont se dire, tiens, Changement de Cap, ils font comme ça. Peut-être sympa de partager. Encore une fois, on ouvre les barrières, on fait tout sauter. Mmh. Et voilà, c'est encore, on casse encore un schéma, quoi. Ça, c'est intéressant.
On s'interpelle, ouais. C'est ça qui est bien entre nous, même dans le réseau, tu vois. On n'est pas sur des acquis, genre nous, on est des écolos, on est des ci, on est des ça. On est, comme je disais tout à l'heure, on est en essai, donc on essaie de pousser des petites portes de liberté. Donc en fait, on s'interpelle entre nous aussi pour se renforcer et pour justement se poser des nouvelles questions, pour pas être que dans une théorie ou un discours un peu stérile, quoi. Le but, c'est d'aller dans la politique des actes, comme il dit Pierre Rabhi, et comme il aime bien que je dise Flo. La politique des actes, non, mais c'est vrai, tout est résumé là-dedans, quoi. Il y a des choses qui sont super simples à dire, comme jardiner, c'est résister. Enfin, il y a plein de phrases qui parlent et après, il faut les appliquer, quoi. Voilà, ça nous parle à tous et après, on les applique.
Alors ça, j'ai bien aimé hier, quand on s'est rencontrés, tu nous as parlé des projets, tu vas peut-être en parler après, de recherche de terre, etc. Mmh. Et vous avez parlé d'un jardin partagé qui était en place, de stages que vous faisiez, et justement de la passerelle qui s'était faite avec Terre et Humanisme. Mmh. Et c'est peut-être bien de le dire, parce qu'il y a beaucoup de gens qui se disent, ben voilà, Pierre Rabhi, c'est super sympa, mais ça devient un truc de bobo, super machin, mmh. Et c'est pas vraiment le cas.
Ben non, c'est vrai que nous on l'a rencontré, Pierre Rabhi, on lui a parlé du projet aussi, voilà, comme on en a parlé à quelqu'un d'autre en fait, on le met pas sur un piédestal plus que ça, on trouve qu'il dit des choses intéressantes, donc avec la musique de Kenny en fond, génial. T'es Didier Casse à Kenny Arcana, donc du coup, de carreau de Changement de Cap. Donc pour revenir sur ça, ouais, on l'a rencontré comme on est allé rencontrer plein d'acteurs, parce que voilà, le but c'est pas, on n'est pas en autarcie nous. Donc on va se renseigner aussi, et quand il y a des choses qui nous parlent, on y va. Donc voilà, Pierre Rabhi, on est allé le voir, on y a parlé de ça, que l'agroécologie, ça nous parlait, autant que la permaculture, que la biodynamie, et que ça nous parlait surtout pour que l'agroécologie soit de manière populaire, pour qu'il y ait des gens qui arrivent à cultiver leur jardin sans produits chimiques, sans toutes ces conneries, en fait, et qu'ils arrivent à se nourrir bien, ce qui est source aussi de bonne santé. Donc on joue sur l'alimentation, là, mais aussi sur la santé, donc la médecine. Voilà, c'est, pour changer de cap, c'est des facteurs qui sont importants, comme l'éducation, comme la coopération, etc. Donc voilà. Voilà, on est allé le voir, il en a parlé, que nous, ce qui nous intéressait, c'était l'agroécologie de manière populaire, et que du coup, ben, on a mis des jardins en place, il nous a dit, ben, c'est très bien, il faut le faire, et je crois qu'il a raison, c'est comme ça qu'on fait, il faut y aller, donc on l'a mis en place, donc on a été soutenu par Terre Humanisme, ça c'est génial, et maintenant, on fait des formations en agroécologie à prix libre.
J'allais le dire, et là, c'est à notre sauce, c'est à la sauce Changement de Cap, c'est à prix libre.
Et ça, c'est très bien, ça, le prix libre, c'est un truc qui est génial, comme disait Florian tout à l'heure, mais imaginez pour des formations, c'est-à-dire une transmission de savoir qui est pour nous, en tout cas, déclarée comme une des plus grandes richesses, au-delà, loin devant l'argent, quoi. C'est une vraie richesse, le savoir. Et si on pouvait se le transmettre, bon, ben nous, parce qu'on a une structure, donc on a quand même quelques frais, donc c'est à prix libre, mais ça permet, ça exclut pas des gens. Mais en tout cas, quelqu'un qui vient apprendre chez nous, il a le compost, apprendre le sol, à planter, co-démarrer son jardin, etc., etc. Pour ça, il peut se lancer déjà dans une dynamique autonome. Et là, là il résiste quelque part. Parce que s'il fait ses légumes, ben, il ne va plus aux grandes surfaces, etc., etc. Il se reconnecte à le vivant. Parce que dans l'agroécologie, ce qui nous a interpellés, nous, c'est la conscience aussi. Du vivant, en fait, l'écosystème, comment on est placé, etc. Voilà, se poser des questions, en tout cas. Pas marcher... comme on nous dit, dans une pensée unique, etc. Donc voilà, ça c'était génial. Et de là, je rebondis sur les autres formations parce qu'en fait, on en fait plein sur les justement transmission de savoir. Donc on fait sur les roquettes stove aussi, qui sont des poêles à effet de masse. Et ça, c'est génial en fait parce qu'avec trois brindilles, on arrive à faire chauffer de l'eau. Donc ça, il faut l'apprendre à le faire parce que voilà, il y a plus de gaz avec ça, on peut aller n'importe où. Après, on va avoir sur les réparations vélo, on va avoir sur le graffiti, sur la transformation en cuisine. Voilà, on y va comme ça et on le fait. Et les énergies libres, moi j'ai pas oublié Flo. Dédicace à Jean-Christophe Dumas pour les énergies libres. Voilà, et on le dit, donc on n'a pas peur de le soutenir, bien au contraire, on le soutient énormément. Voilà, parce que lui, il cherche, après moi, je ne suis pas physicien ni chimiste, etc., je ne capte pas trop, mais en tout cas, je vois la dynamique de Jean-Christophe qui est vraiment intéressante, parce que au moins, il cherche autre chose, quoi. Et puis en plus, il y a un message derrière résistant. Donc ça, c'est intéressant. Voilà, il sème quelque chose qui va grandir dans l'avenir, et j'en suis sûr, en tout cas, nous, on l'aidera sur ce côté-là. Et donc les énergies libres, et voilà, et on espère pouvoir faire beaucoup d'autres formations, en tout cas qui vont dans une dynamique de changer de cap, bien sûr, pour rester en cohérence avec ce qu'on dit et ce qu'on est. Voilà.
Et alors, recherche de. On parlait tout à l'heure de projet, et donc recherche de terrain, je vous en ai entendu parler hier. L'objectif là, c'est quoi ?
L'objectif, ça serait de faire un micro-village, en fait, avec le cœur, le poumon, dans le cœur du projet, ça soit le lieu d'accueil, en fait, qui permette à des gens de venir se reconstruire à travers un projet, venir participer, venir apprendre, comme on disait, et des gens qui sont en souffrance aussi, qui ont besoin d'être logés et à travers une activité, en tout cas, retrouver de l'intégrité, de retrouver, de se sentir mieux et de faire, eux, leur étape, qu'on leur ait donné envie, en tout cas, d'aller aboutir à leur projet ou de rester avec nous, construire, continuer à construire ça. Donc ce qu'on aimerait, c'est trouver des terres, un minimum de 10 hectares en fait, et créer une polyculture pour... Sophie, elle me dit plus. Oui, non, c'est vrai parce que... Non, mais c'est vrai que je suis pas assez gourmand. Mais... Non, mais l'idée, ça serait de préserver déjà. Avant tout, c'est d'arriver sur une terre. Alors imaginons sur 40 hectares. On aurait 20 hectares de forêt à préserver, quoi. Donc ça, c'est un peu gagné quelque part parce que voilà, là, on est là et on préserve. Et on va essayer de développer, donc avec l'agroécologie, la perma, etc., on va essayer de développer des activités pour des gens qui ont besoin d'activités aussi, qui sont aussi en mal-être des fois, de ne pas trouver leur place, etc. Et à travers le vivant, en tout cas, de pouvoir développer en préservant des activités agricoles. Maraîchage, pisciculture, arboriculture, on peut aller dans le miel, etc., etc. Et faire ça avec des gens, en tout cas, qui viennent ou qui ont un parcours difficile ou qui ont un parcours un peu atypique, et de le faire ensemble et de montrer que c'est possible. Donc voilà, ce qu'il nous faudrait, c'est de la terre maintenant pour pouvoir faire des éco-habitats, une phytoépuration, toilettes sèches, et se faire un atelier pour tout ce qui est cuisine et toutes les formations qu'on pourra proposer aussi sur ce nouveau type, en tout cas, parce que c'est un peu innovant, ce nouveau type de lieu alternatif. Voilà.
Et comment vous êtes perçu par les institutionnels avec un grand I, les collectivités territoriales, tous les partenaires qu'on peut avoir, comment vous êtes passé ?
Eh bien, très bien, parce qu'en fait, dès le départ, on s'est présenté. Donc, je pense que ça joue aussi dans les relations, c'est-à-dire que souvent, les gens sont inquiets. Ils sont inquiets parce que c'est nouveau. Et ben, nous, on est allés, on a discuté avec... on a élargi le cercle, en fait. Hein. On est parti de notre commune, et puis on va un peu plus loin, et puis on est arrivé jusqu'à des gens qui reflètent le département. Et donc, ça, c'est bien, parce que ça permet aussi que le projet soit identifié, que quand ils rencontrent des gens qui sont peut-être un peu moins pour, ou... Et ben voilà, il y a de la réaction, et les gens sont au courant, et ça évite les mauvaises choses qui peuvent se dire, voilà. Mais quand les gens ne savent pas. Donc, ça se passe bien et puis on espère que ça va continuer. C'est évident que ça va continuer. Et puis en plus, on a de la chance parce qu'il y a du monde dans le territoire des choix qui est quand même conscient des choses à faire évoluer. Et notamment dans les institutions, enfin peu importe en fait le milieu, mais il y en a partout, des gens qui ont envie de faire bouger. Donc ça, c'est bien. On se rencontre et on peut arriver à avoir une énergie qui bouge tous ensemble.
Super. Un petit mot peut-être pour les gens qui souhaiteraient en savoir plus. Vous avez un site internet, il y a une page Facebook. Comment on fait pour vous contacter ?
Oui, le... ça rappelle des souvenirs, ça. alors.
C'est le numéro, ça rappelle non, jamais.
Le numéro, je ne me rappelle jamais. Bon, le Facebook, c'est changement de cap, c'est facile. Le site internet, c'est pareil. Point net, changement de cap.net. Et le numéro, c'est le 0.
6.
Allez, vas-y, enchaîne.
06 75 15 63 58. Mais tout est sur le site internet et vous pouvez trouver toutes les infos dessus.
Avec le bel accent de Sophie en plus. Moi, ça aurait chier. Je vois qu'à ça en plus. C'est pas bien.
Bah, les copains de toi, si vous avez envie de venir rendre visite aux Arts des Choix, et ça sera... ils sont super accueillants, vraiment.
Merci à toi.
Hein. Salut, hâte. Cette émission arrive à son terme. Nous espérons que vous aurez pris autant de plaisir que nous en avons eu à rencontrer ces fous et folles furieuses de l'autre côté des montagnes. C'est pas si loin que ça. Et malgré tout, il y a la Lozère à traverser, l'Aveyron et la Lozère à traverser. En tout cas, de belles rencontres. On essaiera de faire ça un petit peu plus souvent. Ces espaces d'alternatives qui sont un petit peu partout autour de nous et que ces passerelles puissent se jeter, la communication se faire. Et voilà, veuillez excuser la piètre qualité de sonore et du montage, mais nous sommes plus à l'aise avec l'écrit des claviers qu'avec le matériel audio. Et même si on travaille étroitement avec nos copains de Décibel et d'Antenne Doc, voilà, mais on progresse et on va arriver à faire quelque chose d'intéressant. En tout cas, on vous souhaite une très belle journée. On vous dit à très bientôt sur les antennes de vos médias libres. Thank you.